Actu SF, les podcasts.
Bien. Chers amis, bienvenue à la remise officielle du premier prix Aristophane du théâtre SF, science-fiction, de l'histoire tout court.
Voilà.
J'ai à côté de moi Pierre Gévard, organisateur de la convention et de l'Eurocon 2018. Je remercie de sa présence. Voilà.
Merci.
Et puis, bien d'abord, ce qu'on va faire, c'est vous présenter un petit peu ce nouveau prix. Ensuite, on vous donnera le palmarès et je présenterai aussi les différents membres du jury. Et puis ensuite, on pourra écouter un extrait, une lecture de la pièce gagnante. Pas de l'intégralité de cette pièce, mais d'une partie en tout cas de cette pièce. Et tout sera enregistré et ensuite mis en ligne sur ActuSF dans les meilleurs délais, je pense.
Voilà, la semaine prochaine.
Alors tout d'abord, pourquoi un prix Aristophane du théâtre SF? Eh bien, ça vient d'une discussion que nous avons eue avec Pierre. Donc Pierre, je vais peut-être te laisser commencer par fixer le contexte et puis j'ajouterai quelques mots.
Voilà, ben oui, c'est une discussion que nous avons eue, comme ça nous arrive à... Épinal, lors des Imaginales, et il se trouve que le théâtre représente quelque chose pour Hugo, comme pour moi, dans nos vies et dans nos familles, dirais-je, dans nos proches, et donc nous sommes mis à parler de théâtre et de science-fiction, des auteurs de science-fiction qui ont écrit écrit du théâtre, et d'un seul coup, quelqu'un, je ne sais plus qui, mais je crois que c'est Hugo, a dit, mais et si on crée un prix de la pièce de science-fiction? Et c'est le genre de choses qu'il ne faut pas me dire deux fois, mais une fois, parce que je le fais. Donc nous avons pris cette décision. Nous sommes dit que pour l'Euroconvention, ce serait une bonne idée que d'arriver à donner ce prix qui n'avait pas encore de nom à l'époque. Et nous avons défini un peu le cadre rapidement, une pièce en un acte pour 4 à 5 acteurs, enfin rôles différents, qui durent moins d'une heure. C'était cela qui avait été retenu. Et à partir de là, eh bien, nous avons lancé la vie du concours, l'appel à texte, sans bien savoir ce qui allait en sortir.
Tout à fait. Ouais.
Sans bien savoir ce qui allait en sortir. Et au début, c'était très calme.
Mm-hmm. Oui, les premiers. On n'a pas reçu tout de suite beaucoup de textes.
Il y a eu 6 ou 7 mois avant qu'on reçoive vraiment du texte. Et puis, finalement, on est arrivé, pour la pièce en français, en anglais aussi, on est arrivé à 28 pièces. 28 pièces de théâtre, c'est-à-dire que des auteurs, et je ne dis pas 28 auteurs, parce que plusieurs de ces pièces, et on pourra le voir tout à l'heure, ont été écrites par des duos d'auteurs. Donc, nous avons une trentaine d'auteurs qui ont écrit de la science-fiction et du théâtre en même temps, sous forme théâtrale. Alors, la décision finale c'est faite plus tard, et c'est là, Hugo va vous le dire, que nous avons choisi un nom pour le prix.
Tout à fait. Alors, merci Pierre. Donc, juste, tout a été dit. Essentiellement, il y avait vraiment un manque de prix sur le théâtre de science-fiction, ou enfin, le théâtre dans la science-fiction. Ni les prix habituels, le prix du public, ni les prix de jury ne faisaient de place au théâtre. Or, pourtant, vous le savez tous, le théâtre est un mode d'expression, un mode de support tout à fait reconnu pour la science-fiction, voire pour l'imaginaire scientifique. On pense aux physiciens de Duhamel, par exemple. Et du coup, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait créer. Alors, dans la façon dont nous avons travaillé, nous avons choisi le modèle d'un jury, donc d'une constitution d'un jury. Donc j'ai eu l'honneur, grâce à l'accord de Pierre, de présider ce jury. Alors ce premier jury du premier prix Aristophane, qui n'avait pas encore de nom, enfin, je vais y revenir, ce premier jury était composé donc, de 4 personnes. Donc d'abord Vanessa Bellagamba, qui est ma sœur, et qui est actrice, qui est comédienne à Nice et qui n'est pas nécessairement férue de science-fiction, mais qui en lit de temps en temps. On a ensuite une universitaire qui nous a rejoint, Florence... Flore Garcin-Marou, qui est universitaire en études théâtrales, qui est spécialiste, maître de conférences en études théâtrales. Et puis également Émilie Gévard, qui est donc la fille de Pierre et qui est notamment comédienne et metteur en scène. D'ailleurs, elle a mis en scène Carthage encore de Jean-Luc Lagarce, que vous avez vu hier soir. Donc voilà, et puis moi-même, bien évidemment, en président de jury. Donc un jury assez ouvert, avec une dimension universitaire, une dimension praticienne de la pratique du théâtre, et puis une dimension que j'incarnais en partie aussi de connaissance de la science-fiction et d'histoire de la science-fiction. Nous avons travaillé, alors ce sont les secrets du jury, mais j'en dis quelques mots, nous avons travaillé selon un système de vote et d'attribution de points assez précis, avec des critères objectifs. Donc il y a eu un vrai travail de construction de la décision dans ce jury, ce qui a été pour nous quatre, de façon assez claire, une belle aventure, une aventure intellectuelle, une aventure humaine. Nous avons échangé beaucoup de messages et beaucoup d'échanges de vive voix également. Et nous avons établi un quatuor de critères objectifs qui ont permis de faire un classement général qui ne sera pas diffusé, je tiens à le dire tout de suite, un classement général des 28 textes qui avaient été soumis. Avant de vous donner le résultat, je voudrais ajouter deux choses. D'abord, je suis très heureux d'avoir décerné hier donc le prix Aristophane en théâtre, en texte anglais à Jérôme Sigut, qui est présent dans la salle, pour une pièce qui s'appelle Turing et qui a donc remporté le prix Aristophane 2018 en anglais. Donc je le félicite et je l'applaudis, je pense qu'on peut le féliciter. Voilà, donc toutes mes félicitations à Jérôme Sigut. Nous avons enregistré la rencontre avec lui et l'interview. Et également, nous avons lu un extrait de sa pièce en anglais qui sera en ligne sur ActuSF. Alors, dernière chose avant maintenant de vous délivrer le palmarès, troisième, deuxième et premier prix. Pourquoi le prix Aristophane ? C'est une idée que nous avons eue tous les deux avec Pierre à Nice Fiction, il y a finalement peu de temps, puisque c'était au mois de juin récemment. Pourquoi Aristophane ? Eh bien, parce que, vous le savez, d'une certaine façon, le théâtre d'Aristophane incarne la satire, le questionnement sur le réel et au fond une partie de ce qui peut être considéré comme les racines lointaines, les racines antiques de la science-fiction avec des pièces comme Les Oiseaux, Les Nuées ou d'autres encore. Et il nous a semblé qu'Aristophane était un bon patronage pour la liberté, la satire que nous espérions dans ce concours et dans ce prix Aristophane.
Voilà. Oui.
Donc vous verrez, nous n'avons pas encore de trophée, ça viendra parce que nous ambitionnons très clairement que le prix Aristophane ne soit pas un one-shot, mais qu'il soit décerné chaque année à la Convention nationale de science-fiction. Donc, on espère la complicité des futurs organisateurs pour que ce prix continue à exister et peut-être un jour puisse être doté. Voilà. Donc, vous verrez le trophée lorsque nous pourrons le faire, qui met en scène un Aristophane en costume de cosmonaute.
Absolument.
Voilà. Bien, alors si tu n'as rien à ajouter,
je
t'en prie.
Un détail technique, mon rôle dans l'affaire, je ne suis absolument pas intervenu dans les débats. Et c'est quand Hugo m'a révélé les résultats, vraiment, quand tout était fait à Nice Fiction, que j'étais mis au courant. C'est une garantie. Quand j'organise des concours, des appels à texte, je tiens à ce qu'il y ait toujours un anonymat réel et complet. Et donc là, je vous ai transmis des textes qui avaient été anonymisés.
Absolument.
Et même uniformisés.
Absolument.
Voilà.
Pierre est évidemment ce qu'il dit, et c'est très important parce que, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est vraiment important pour l'avenir du prix. Les textes étaient donc tous anonymisés, ça veut dire qu'on n'avait absolument aucune information, nous les quatre membres de jury, sur qui avait proposé quoi, et que ces noms sont restés secrets jusqu'à la toute dernière minute, à tel point, je suis bien obligé de l'admettre, qu'aujourd'hui même, sur les 28 textes soumis, je ne connais le nom que de ceux qui ont remporté les trois premiers prix, le troisième, le second et le premier prix. Et je ne sais pas encore à ce jour précis, car je ne l'ai pas demandé à Pierre, le nom des auteurs des textes, de l'ensemble des textes soumis. Donc peut-être parmi vous, certains ont soumis des textes et je ne sais pas de qui il s'agit pour l'instant. Voilà.
Et inversement, moi je connais, en tout cas j'ai la possibilité de connaître les noms des auteurs et les titres des pièces, mais je ne sais absolument pas comment elles sont classées au-delà des prix qui vont être remis aujourd'hui.
Et ça restera le secret impénétrable, insondable et à jamais clos du jury de ce premier prix.
Puisque alors, nous allons. Nous connaissons chacun la moitié, et que l'autre ne connaît pas l'autre moitié.
Alors, merci Pierre en tout cas de m'avoir accompagné. Oui. Évidemment, nous regrettons l'absence d'une partie du jury, mais pour des raisons tout à fait professionnelles, notamment pour Flore Garcin-Maroux, et puis familiales et professionnelles aussi pour la préparation de la pièce d'Émilie Géva.
Oui, qui est en train de faire répéter les acteurs pour Goodbye Mr. Man.
Voilà, et quant à Vanessa Balagomba, malheureusement, des problèmes familiaux l'ont empêchée d'être à mes côtés. Vous imaginez bien à quel point je le regrette. Alors, nous allons annoncer le palmarès en partant du troisième prix.
Je ne les ai pas signés, les deux autres.
Oui, je vais le faire.
D'accord.
Je vais le faire. Troisième prix, donc Aristophane 2018 de la pièce de théâtre SF en français, est attribué à Antoine Palazzi pour le paradoxe Phédo. Bravo. Antoine. Voilà. T'en prie, viens. Descendez avec nous, Antoine. Le paradoxe Phédo d'Antoine Palazzi. Félicitations.
Merci.
Toutes mes félicitations. Voilà le. Voilà.
Alors, c'est un peu surprenant parce que je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin.
Voilà, bravo. Voilà. Asseyez-vous, je vous en prie. On va faire un petit. Quelques mots.
Oui.
Voilà, quelques mots de rencontre. Alors, Antoine Palazzi, est-ce que c'est la première fois que vous écrivez une pièce de théâtre? Est-ce que de théâtre pour la science-fiction?
Non, moi je baigne depuis longtemps dans l'univers du théâtre parce que je suis aussi comédien sur Marseille. Et c'est la première fois, oui, que j'écrivais vraiment une pièce originale. Quoi.
D'accord, d'accord. Est-ce que ça a été difficile de respecter le cadre tel qu'il avait été fixé, le cadre du concours, 4-5 personnages, un seul acte, etc. Ou...
Non, le cadre non, mais après c'était des délais de temps, mais ça c'est de ma faute parce que j'ai appris un peu au dernier moment, donc... J'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire, mais oui, ce qui était surprenant, c'est de voir que vous respectiez l'unité d'action de temps, et, surtout pour une pièce de science-fiction. J'ai trouvé ça un peu paradoxal, mais je sais pas, peut-être vous pouvez vous expliquer.
Oui, en fait, on voulait vraiment l'inscrire dans la tradition du théâtre, du théâtre antique.
Oui, mais comme c'est une tradition qui est de plus en plus remise en cause.
C'était justement l'idée de jouer sur la contrainte.
Oui.
Très bien, en tout cas, félicitations. Est-ce qu'il y a un espoir devant la pièce mise en scène?
Je ne sais pas encore, peut-être.
D'accord.
Peut-être, enfin je connais des gens qui pourraient le faire.
Très bien.
Alors tenez-nous au courant si ça se fait.
Oui.
Voilà, ça sera sûrement sur Marseille si ça se fait.
Oui.
Voilà.
Vous êtes de sur Marseille?
Moi je suis d'accord. De Marseille. Oui.
D'accord, très bien. Je vous donnerai une petite erreur.
Je vous en ferai.
On va en refaire un.
Mais voilà. Par contre, pour moi personnellement, c'est pour savoir, vous parliez de 4 critères. C'est
alors, on le dira après.
Après.
On dira après, voilà.
Ouais.
C'est gentil. Merci. Merci, félicitations encore. Alors, le deuxième prix, donc du prix Aristophane 2018 de la pièce de science-fiction, donc, est attribué à Damien Allemand pour la pièce « L'homme qui passait par là ». Est-ce que Damien Allemand est par là?
C'est l'homme qui ne passait pas par là.
L'homme qui passait par là n'est pas là, donc, malheureusement, mais ce n'est pas grave.
Si
tu as ses coordonnées, nous pourrons lui remettre le prix.
Voilà, il n'a pas lui demander pourquoi il a écrit ça.
Très bien. Et enfin, donc premier prix, donc lauréat du premier prix Aristophane 2018, c'est un couple d'auteurs. C'est un couple d'auteurs. Le premier prix est attribué à Jean-Jacques Régnier et Jean-Jacques Girardot pour « Nul n'est censé ignorer le chat ». Venez avec nous, venez vous asseoir.
Voilà. m'est passé maintenant. Ouais. Voilà. Je vous laisse pour aller lire quel est le regard de la France comme sur la
Terre. Asseyez-vous. Félicitations.
Oui, oui, oui. Hein. C'est inestimable.
Ah ben, je pense.
Voilà.
Ah, il nous a quittés. Ah,
voilà. Et il est passé. Ah, il est là. Voilà. Viens, viens, viens. Je tombe.
Ah, parce que chacun prend côté. Voilà.
C'est pas moi, ça. C'est vrai que c'est pas. Ah bon. Ça arrive pas. Asseyez-vous.
T'as pas signé, hein.
Oui, je vais signer, je vais signer. Tant que j'ai pas signé, ça n'a aucune valeur. Je signerai que si vous êtes sage.
Bon, voilà.
Sinon, je signe pas.
Tu sais, c'est ma barre.
Alors, Jean-Jacques Régnier et Jean-Jacques Girardot.
Alors, dans l'ordre alphabétique, c'est Girardot d'abord, hein, si je peux me permettre.
Alors, Jean-Jacques Girardot et Jean-Jacques Régnier. Est-ce qu'on pourrait, oui, c'est enregistré, merci, merci. Est-ce qu'on pourrait savoir, donc, première chose d'abord, d'où vient cette pièce de théâtre? Comment vous en avez eu l'idée au départ? Est-ce que c'est plutôt Jean-Jacques ou Jean-Jacques?
C'est plutôt Jean-Jacques.
C'est plutôt Jean-Jacques. C'est bien ce qu'on imaginait lorsqu'on a su
ou alors, enfin, Jean-Jacques d'abord.
Alors, est-ce que vous avez quelques informations à nous donner?
Oui, à l'instant, là, dans la minute qui précédait, j'ai griffonné quelques notes que je vais vous lire.
Voilà, alors, vas-y.
La toute première version de ce texte, parce que c'est un texte ancien, faut-il le dire, est née au cours d'un atelier d'écriture. Dont j'étais participant, dans les années 90. Quelques années plus tard, en 2003, je transforme ce texte en une chanson qui s'appelle « La Java des Chats Cantiques », une Java à 7 temps, dont la musique est composée par Vincent Royer, pianiste, compositeur et chef de chant à l'Opéra de Nancy, et qui fut interprétée pendant quelques années à la scène par les Casus Belli, un groupe. Un groupe bien connu. Un peu plus tard, je réécris le texte vers 2004.
La dame là-haut, elle est sourde.
Un peu plus tard, voilà. je réécris le texte vers 2004 que j'envoie à Jean-Jacques Régnier pour avoir quelques retours de sa part. Nous échangeons quelques mots de temps à autre. Et vers 2008, un événement décisif se produit. En effet, ce jour-là, très précisément, je m'en souviens comme si c'était il y a 10 ans, Jean-Jacques m'écrit « Notre texte avait une probabilité quasiment nulle d'être un jour accepté par un quelconque éditeur. Je viens de multiplier ces chances par un nouveau facteur proche de zéro en le transformant en pièce de théâtre. » Nous nous gratulons mutuellement. C'est des congratulations intelligentes, je traduis. Puis le temps passe à sa vitesse habituelle pendant quelques années. Et en 2007, nous découvrons l'appel à pièces d'Amiens. Nous étions conscients que c'était notre ultime espoir. Non, mais là, après tu diras ce que tu veux, hein, bien entendu. Donc nous nous retrouvons... Nous nous retrouvons une première fois en septembre 2017 à Aix-en-Provence pour une semaine acharnée de travail où je me souviens de ce point virgule sur lequel nous avons discuté pendant 3 jours et presque autant de nuits. Puis à nouveau, il y est, on a vérifié. Puis à nouveau en décembre 2018 à Saint-Étienne pour une nouvelle semaine de travail tout autant acharnée. Encore 3 mois, oui. 2017. Décembre 2017. J'ai dit décembre 2018.
2017.
Mais vous allez voir que c'est extrêmement important, finalement, le choix de la date dans cette affaire.
Encore 3 mois d'aller-retour incessant. Enfin, le sort en est jeté. Jean-Jacques prend la décision de se jeter à l'eau et le 31 mars à 23h47 expédie l'œuvre à Lord Byron. Quelques mois s'écoulent. Que nous vivons fiévreusement, partagés entre l'espoir le plus fou et la plus raisonnée des résignations. Nous tombons des nues aujourd'hui même, en découvrant, en même temps que vous, les lauréats. Nous ne pouvons bien sûr qu'applaudir le jury pour sa clairvoyance. Le reste appartient désormais à la grande histoire de la littérature mondiale.
Jean-Jacques,
je me permets de faire une très légère remarque. Tout ce que tu as dit, là, c'est complètement fou.
Plus fort, s'il te
plaît. Complètement faux, de A jusqu'à Z, parce que
Je sais, mais c'était mieux ainsi.
Le point-virgule était là dès le départ, rappelle-toi. À peu près l'intégralité de cette histoire a été bâtie autour de ce point-virgule. Vous qui aurez la chance un jour de lire, sinon même d'assister à la représentation de la pièce qui en est sortie, vous verrez à quel point tout tourne autour de ce point-virgule. Vous apercevrez que cette histoire est basée comme un pivot sur le déroulement aléatoire du temps et que ce déroulement tourne autour du point-virgule. Si, par extraordinaire, nous avions choisi un point, l'avenir de cette pièce aurait été changé.
Bien.
Je le dis.
C'est pas faux.
Hein?
C'est pas faux.
Ouais.
Bien, alors ce que je vous propose, parce que tout ça est absolument passionnant, mais en même temps, ce serait bien de pouvoir écouter une partie de cette pièce. Alors, je tiens à m'excuser auprès des lauréats, aussi bien Jean-Jacques Régnier et Jean-Jacques Girardeau, que Damien Allemand et que Antoine, voilà, Paladi. Paladi, vous voyez à quel point l'anonymat est respecté, puisque je ne me rappelle même pas. Et si j'avais su...
Comment je m'appelle, je ne sais plus.
Hugo Bellagamba. Oui. Donc, on va malheureusement ne pas pouvoir jouer la pièce parce que le temps a été trop bref et en réalité, c'est moi en tant que président de jury qui ai demandé plus de temps parce que nous avons 28 textes à lire et à évaluer et donc nous n'avons donné notre résultat que tardivement, en réalité vers la fin du mois de juin. Et donc, il n'y a pas eu le temps matériel pour préparer une représentation des pièces lauréates, même par extrait. Donc nous allons simplement en donner lecture. Je me propose de jouer le rôle de la didascalie et les deux auteurs, assumant leur prose, liront un extrait des deux premières scènes.
Tu fais l'un ou je fais l'autre ?
Plouf.
Je vous rappelle que vous êtes enregistré et que ce sera disponible sur ActuSF.
C'est moi le grand et toi le petit. D'accord. Je fais le professeur. Très important, c'est pas un détail.
Je vous donne les personnages de cette pièce qui s'intitule « Nul n'est censé ignorer le chat », comédie pseudo-quantique en un acte et un tableau. Personnage, le professeur Léon Delboni, physicien.
Ce sera moi.
Jean-Jacques Girardeau. Igor Barnabé Durand, son assistant.
Himself.
Jean-Jacques Régnier, Honoré Louvois, avocat, Alcée Pantifol, avocate, Marcello Wittelstein, VCO de la TTI-NC. La scène représente ce qu'on pourrait prendre pour un laboratoire de physique dans le plus grand désordre. Côté cour, une porte. Côté jardin, un grand réfrigérateur. Devant, une table avec un four à micro-ondes. Quelques chaises. Une horloge murale indique 8 heures. Deux chats, l'un en train de dormir dans un carton, l'autre assis sur le bureau comme une statuette égyptienne, tous les deux identiquement maigres, jaunes, pelés, torves, boiteux et cassés de la queue. Le professeur Léon Delboni, vêtu de sa traditionnelle blouse blanche, est penché dans le frigidaire. Scène 1, Igor Barnabé Durand, le professeur Léon Delboni. Igor Barnabé Durand entre par la porte, un gobelet de café à la main.
Tiens, y a un chat ?
En effet, Igor, observez-le bien et dites-moi ce que vous voyez.
Je vois qu'il est maigre, jaune, pelé, torve, boiteux et cassé de la queue.
Parfait. Regardez celui-ci maintenant.
Ah, je ne l'ai pas vu, lui. Eh bien, il me semble tout autant maigre, jaune, pelé, torve, boiteux et cassé de la queue. Ce sont des jumeaux d'une même mère ?
Il lève la tête, et regarde son assistant comme si celui-ci venait de lui offrir les œuvres complètes de Heisenberg, illustrées de surcroît. Il a l'air ravi.
C'est frappant, hein, Igor. Je vous défie de trouver la moindre différence entre ces deux animaux.
Il regarde attentivement, à droite, à gauche. Le jeu de scène doit être appuyé, mais sans excès.
L'un a un collier, l'autre pas.
Oui, certes. Mais écoutez-moi bien. Le chat avec collier est celui que j'ai apporté de mon domicile ce matin. L'animal sans collier est celui que j'ai sorti du micro-ondes il y a maintenant 2 bonnes minutes. Qu'est-ce que vous en déduisez ?
Que vous êtes venu travailler au labo très tôt ce matin, ce qui n'est pas dans vos habitudes. Et qu'est-ce que vous avez fait au micro-ondes ? Vous l'avez démonté ? Il marchait bien ?
Oui, j'avais besoin d'une enceinte métallique isolée. Bon, là n'est pas la question. Je n'ai jamais eu qu'un chat. Alors, Igor, d'où vient l'autre ?
J'en sais rien. Je me donne l'impression incertaine d'être simultanément les 2 avatars du chat de Schrödinger. Génération spontanée ?
Le chat du bureau se met à bâiller, s'étire, saute sur le sol et passe à côté de son congénère sans même le renifler. Ici, le responsable des effets spéciaux aura du boulot.
Igor, je sais que vous n'êtes pas un imbécile, mais vous semblez tout faire pour en persuader votre entourage. Revenons à l'équation dont nous discutions encore hier après-midi.
L'équation ?
Oui, l'équation avec un E majuscule. Cette équation dont vous n'avez su tirer que des solutions imaginaires.
Pardon. Elle n'a que des solutions imaginaires, je l'ai démontré. Et sans ma brillante idée de renormalisation par zéro, il n'y aurait d'ailleurs jamais eu d'équation.
Igor Barnabé, je sais ce que je vous dois, mais réfléchissez. Ces solutions imaginaires, qu'est-ce qu'elles pourraient impliquer dans notre monde physique ?
Que le voyage dans le temps est impossible, que nous allons rester la risée de toute l'université, et accessoirement que vous m'avez fait perdre 3 ans à travailler sur une recherche qui ne débouche nulle part.
Homme de peu de foi. Bon, d'accord, c'est ce que je pensais jusqu'à cette nuit. Et d'un seul coup,
il lui tend une feuille de papier couverte d'équations. Igor prend son temps pour la parcourir à plusieurs reprises.
Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est trivial. Les solutions imaginaires impliquent simplement que les courants dans les solénoïdes sont déphasés les uns par rapport aux autres de multiples de pi sur 3.
En fait, le déphasage agit sur le processus à distorsion de phase dimensionnelle. Il repose sur le fait qu'il est impossible de se déplacer dans l'espace sans le faire aussi dans le temps.
C'est pas vraiment nouveau.
Il réfléchit un instant.
Attendez. Le déphasage bloque 3 des 4 coordonnées d'espace-temps, la 4e se transforme en temps pur, et on va alors bêtement vers le futur comme d'habitude, mais immobile, non ?
Igor, vous me décevez. C'est pourtant vous, le mathématicien. Les racines sont de signes opposés. Elles ouvrent la possibilité d'un déplacement, mais dans l'autre sens.
Ah oui, évidemment. Alors ça donne...
Il prend un air encore plus mystérieux, se penche sur l'oreille de son interlocuteur, il le dépasse d'une bonne tête. Hésite une seconde et murmure en désignant le four à micro-ondes.
Ça donne le voyage dans le passé.
Il reste muet, jeu de scène assez facile.
Alors,
mathématiquement, ça se tient. Ça veut dire que le problème est en théorie résolu. Il y a une machine à voyager dans le passé. Pourquoi pas ? Ça n'est pas plus bête qu'autre chose, hein. Mais le passage à la pratique va être une autre paire de manches.
Igor, ouvrez les yeux et regardez ces chats. Celui qui porte le collier, là, est parfaitement normal. L'autre, eh bien, c'est le même, mais il vient directement de l'avenir via le four à micro-ondes que vous voyez sur l'établi.
L'avenir ? Le four à micro-ondes ?
Il boit machinalement une gorgée de café.
Mais alors ça marche ?
Bien, je vois que vous n'avez pas de préjugés. Remarquez, pour avoir des préjugés, il faut des connaissances cohérentes. Ce qui n'est pas toujours votre cas. Mais enfin, oui, ça marche.
Il consulte sa montre.
Ah, nous n'allons pas tarder à arriver nous-mêmes dans l'avenir, et nous devrons renvoyer le chat dans le passé.
Donc vous avez transformé le micro-ondes en une...
Avec un air soudain méfiant.
En une machine à voyager dans le temps, oui.
Il va à la porte, l'ouvre, jette un coup d'œil dans le couloir et revient avec un air chafouin, hypocrite et grivois. L'acteur jouant ce rôle doit exécuter à la perfection ce jeu de scène difficile.
Vous n'avez pas raconté à tout le monde ce que je suis en train de faire, hein ? D'abord, il faut déposer des brevets. Ensuite, on rédige les articles et on les envoie à Nature, Science, les comptes rendus de l'Académie des Sciences et... Tiens, Pif Gadget. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être publié dans Pif Gadget.
Le micro-ondes est une machine à voyager dans le temps ?
C'est exactement ça, Igor, vous vous répétez. Et vous allez vous en rendre compte, pas plus tard que tout à l'heure, le temps de terminer la conversion du réfrigérateur.
Du réfrigérateur ?
Oui, le micro-ondes est trop exigu pour certaines des expériences que j'envisage. Passez-moi ce boulot, là.
Ils se mettent au travail, vissant des trucs, branchant des machins. Et il ne faut pas que ça lasse le spectateur. Alors, si l'on dispose d'effets spéciaux spectaculaires, c'est le moment. Il a l'air préoccupé, jeu de scène subtil.
Dites-moi, et le chat ?
Le chat ?
Vous m'avez dit que nous allions l'envoyer dans le passé.
Bien sûr, sinon il ne pourrait pas être là.
Bon, ben, est-ce qu'il ne va pas bientôt falloir le faire ? Parce que quand même, maintenant, là...
Le faire ?
Ben oui, quoi, il faut l'envoyer dans le passé, l'avenir est arrivé maintenant, non ?
Il se redresse en se massant les reins.
Sa perlipopette, vous avez raison. Il ne peut pas avoir été dans le passé si nous ne l'y avons pas envoyé. Allez, réglons cette affaire. Après, nous ferons une expérience plus concluante avec ce réfrigérateur que nous sommes en train de transformer. Le micro-ondes est trop petit pour vous.
Pour moi ?
Oui, vous allez utiliser le réfrigérateur.
Moi, je vais entrer là-dedans pour aller dans le passé.
Je l'aurais fait moi-même volontiers. Il faudra que je reste pour surveiller l'expérience. D'ailleurs, vous tenez dans l'appareil, moi non, je suis trop grand. Vous risquez rien. Au pire, un léger échauffement. Il ne s'agit que d'un saut de puce d'une demi-heure.
Il recule d'un pas, commençant visiblement à se demander d'où le chat tire ses difformités, l'air peu enthousiaste.
Mais bien sûr, je me souviens des calculs que nous avons faits ensemble, mais quand même, je me pose une question.
Laquelle ?
Voilà. Si je pars maintenant... Pour dans une demi-heure dans le passé.
Oui.
Nous aurions déjà dû me voir arriver.
Pardon ?
Regardez, je pars maintenant, d'accord ? Il est 8h55. Vous m'avez dit une demi-heure, je devrais arriver à 8h25. Donc à 7h06, je devrais déjà être là, enfin je veux dire l'autre. C'est vous qui m'avez expliqué tout à l'heure avec le chat.
Oui, bien sûr. C'est que je n'avais pas encore branché le réfrigérateur sur le générateur. Dès que je l'aurais fait... Tenez, abaissez le levier, là.
Oui, oui.
Bon, maintenant que je l'aurais mis en route, nous vous aurions vu... Non, ça ne va pas, c'est vrai. Tant que vous n'êtes pas arrivé, vous ne pouvez pas partir, comme le chat. Écoutez, un peu de courage, quoi. C'est sans doute que vous n'êtes pas assez décidé.
Décidé, je ne le suis pas totalement, c'est vrai. Mais quand même, cette machine n'obéit pas à des considérations psychologiques, j'imagine.
Évidemment, non.
Ça veut dire que je ne suis pas parti. Ou alors que quelque chose n'a pas marché.
Il garde le silence un instant, les sourcils froncés en se grattant l'occiput. Jeu de scène difficile.
Ah, oui, c'est vrai. En fait, ce qu'il y a de bien avec cette expérience, c'est qu'on peut savoir si elle va réussir ou pas avant même de l'avoir lancée.
C'est vrai.
Mais là, c'est sûr, il y a un problème. Vous avez raison, nous aurions dû vous voir arriver.
Il scrute son assistant l'air méfiant, puis jette un regard circulaire dans la pièce avant de pousser un bref soupir d'impatience. Il en pousse un aussi, plus long et plutôt de soulagement. Jeu de scène délicat.
En attendant, tenez, ne l'oublions pas. Prenez donc ce chat et posez-le dans le micro-ondes, position décongélation. Il faut l'envoyer maintenant.
Dites-moi, comme vous savez, il y en a deux. Je prends n'importe lequel.
Mais non, malheureux, pas n'importe lequel. Celui qui doit partir dans le passé. Je lui ai mis un collier pour ne pas le confondre avec celui qui a débarqué tout à l'heure.
Ici se déroule une course-poursuite brève mais agitée, au terme de laquelle Igor, sanguignolant, se saisit de l'animal, s'approche de l'appareil et en ouvre la porte.
Et
Qu'est-ce que je fais de l'enveloppe qui est dans le micro-ondes ?
Scène 2, les mêmes personnages. Le professeur Léon Delboni lève les yeux.
Une enveloppe ? Faites voir.
Igor la lui tend. Le professeur l'ouvre, en sort une feuille qu'il parcourt, les sourcils de plus en plus froncés à mesure qu'il lit.
Qu'est-ce que c'est que cette ânerie ? Tenez, voyez-vous-même.
Il la lui tend.
C'est une entreprise qui s'appelle Tet Inc. Ils disent que vous avez utilisé indûment des éléments techniques couverts par un certain nombre de brevets. Je vous passe les numéros.
Un brevet ? Mais quelles sont ces sornettes ? Je n'ai utilisé aucun brevet, moi. Tout est dans le domaine public. Et le reste, c'est moi qui l'ai imaginé. Moi seul.
Et qui est-ce qui a fait les calculs, là, s'il vous plaît ? Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure.
D'accord. Admettons que vous m'ayez un peu aidé.
Quand même. Bon, voyons. Tiens, il détaille les brevets que vous avez copiés.
Copiés. Farigole.
Et il donne les dates de dépôt. Il y en a trois.
Peu m'importe.
Mais oui, mais il s'agit de 2018, 2021 et 2022. Et 2022, c'est dans 4 ans.
Voilà.
Et voilà.
L'extrait, donc, de « Nul n'est censé ignorer le chat ».
Je vous dis pas.